Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Fréquence T, la web radio des agents territoriaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une nouvelle initiative s'inscrivant dans la transition écologique. Il s'agit d'ICI C'est Local. Elle est déployée par les collectivités sur leur marché de plein vent avec l'appui de l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Pour vous présenter cette marque et son déploiement sur le terrain, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Yuna Chifolo, directrice de recherche en sociologie chez INRAE. Bonjour Yuna.
Bonjour.
Et deux consoeurs qui ont récemment mis en œuvre ICI C'est Local sur leur ville. Pauline Godot, vous êtes chargée de mission à la ville de Lyon. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et Nathalie Kella, chargée de mission à la ville de Rennes. Bonjour Nathalie.
Bonjour Cynthia.
Yuna, vous êtes à l'origine avec la ville de Grabel en Hérault de ICI C'est Local. En quoi consiste cette démarche ?
Alors ICI C'est Local, en fait, c'est une démarche simple de signalisation des produits locaux issus de circuits courts sur les marchés de plein vent, à l'aide d'un code couleur qui est apposé sur les étiquettes des produits. Et l'originalité de la démarche, c'est que ça ne se limite pas au marketing, de mise en valeur des produits, c'est vraiment sa gestion locale par un comité qui associe la collectivité, les exposants des marchés, évidemment, donc à la fois producteurs, artisans, commerçants, mais aussi des consommateurs, et puis les partenaires de la collectivité, tels que la Chambre d'agriculture ou la Fédération des CIVAM, par exemple. Donc, le comité, en fait, adapte la charte nationale d'utilisation, donc, qui a été pensée à partir depuis la ville de Grabel, et veille à la bonne utilisation des étiquettes. Alors, il est vrai que les marchés de plein vent en France, qui sont très nombreux, on en compte sans doute 10 000, difficile quand même à chiffrer, mais enfin, en tout cas, un nombre important, et ils font partie de notre histoire, ils font partie vraiment de l'histoire de notre pays et de nos villes. Mais c'est vrai qu'en France, ils associent des produits locaux, des produits qui ne le sont pas, des circuits courts, des circuits longs, c'est difficile de s'y retrouver. Alors, il est vrai aussi que les marchés en France sont sous l'autorité des communes et qu'elles peuvent s'en servir au service en tant qu'outil pour leur politique publique. Et à Grabel, les élus voulaient justement soutenir les circuits courts, les produits locaux, et le marché est apparu comme un levier important, un levier d'action très concret à travers lesquels ils pouvaient justement passer aussi un certain nombre de messages ou d'orientations.
Oui, excusez-moi de vous couper, Yuna, mais peut-être qu'on peut préciser ce que sont les circuits courts pour nos auditeurs. Alors, je pense à nos auditeurs, notamment qui sont agents territoriaux. Dans les marchés publics, le circuit court, c'est avoir au maximum un intermédiaire, mais ce qui peut dire que le produit peut venir de Chine avec un seul intermédiaire avant d'être vendu. Qu'est-ce que ça représente, le circuit court, dans votre démarche ?
Alors, on garde cette définition à la base, au sens où c'est la définition officielle de l'État en France qui a été donnée en 2009, avec toutefois quand même le circuit court avec un intermédiaire maximum, c'est facile de le définir pour les produits non transformés, donc les fruits et légumes. Pour les produits transformés, on accepte un intermédiaire de plus qui va être l'outil de transformation, l'abattoir, le moulin, dans la mesure où on a forcément besoin justement pour ces produits transformés d'un outil qui peut être parfois en prestation de service, parfois y compris un intermédiaire économique. Mais pour autant, ce qui est important dans le circuit court, c'est d'être capable de faire le lien jusqu'à la matière première. Donc, forcément, un nombre d'intermédiaires limité, donc il peut s'étendre à deux quand, justement, il y a cette obligation de transformer le produit. Donc, en effet, il n'y a pas de notion de distance géographique dans la définition officielle de l'État, et c'est pour ça que ICI C'est Local vient ajouter donc un critère d'origine géographique du produit. Mais là encore, on n'a pas la même définition du local quand on est à Paris, ou dans la Drôme, ou en Bretagne, ou à Montpellier. C'est pour ça que cette démarche, elle dit, c'est d'abord au territoire de définir sa zone locale en fonction justement de son agriculture, de son histoire, aussi de sa politique de relocalisation. Si justement une ville veut dire, et c'est important qu'on ait plus de produits dans une zone de 100 ou 150 km, ben ICI C'est Local est là pour ça, pour signaler justement les produits issus de cette relocalisation en tant que politique publique.
Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine flexibilité sur la notion de circuit court, et nous le verrons avec nos deux autres invités, que c'est défini à la main de la ville avec le comité qui est défini dans ICI C'est Local. Pauline et Nathalie nous en parleront tout à l'heure. Mais jusqu'où peut aller cette flexibilité? Est-ce que, par exemple, une ville qui serait frontalière de l'Italie ou de l'Allemagne pourrait définir dans son circuit court que les voisins italiens ou allemands en font partie parce qu'elles seraient à 50 km, par exemple, de la frontière?
Oui, tout à fait, parce que de toute façon, on n'est pas sur un localisme défensif, identitaire ou de repli. Au contraire, l'idée, c'est de réancrer l'alimentation, de valoriser à la fois les producteurs, mais aussi les artisans commerçants. C'est vraiment important, mettre en avant que cette démarche est très inclusive. Et donc, cette démarche inclusive, elle ne peut pas exclure le producteur qui serait allemand ou italien parce qu'il est juste dans la... Non, non, on est dans cette démarche justement très inclusive. Et qui va surtout se dire, valorisons les produits issus de notre territoire de vie, qui peut, dans les zones frontalières, j'imagine, être justement partagé avec des voisins qui ne sont pas du même pays, mais qui pour autant donc, participent à la vie des territoires.
Vous parliez d'inclusivité, je pense que vous faites aussi référence au comité. Comment il fonctionne, enfin, comment il a été défini au niveau national?
Alors le comité, en fait, cette idée de comité, parce qu'en effet, on ne voulait pas d'une marque descendante, anonyme. On voit bien que de toute façon, il y a beaucoup de marques et que les consommateurs sont un peu perdus. Donc c'est vraiment la force de la marque, c'est vraiment d'être portée localement, donc d'avoir des ambassadeurs, des gens qui sont capables de l'expliquer, de la transmettre, de la porter. Donc le comité, c'était important pour nous qu'il y ait justement les acteurs directement impliqués dans le système alimentaire et dans son orientation, dans son évolution. Donc on a imaginé trois collèges avec un collège avec la collectivité et ses partenaires institutionnels mais importants ceux qui peuvent être liés à l'agriculture mais aussi au commerce ou les associations de consommateurs par exemple des consommateurs du marché fréquentant les marchés et puis un troisième collège donc avec les professionnels du marché donc à la fois producteurs artisans commerçants dans cette idée d'avoir vraiment une gestion collégiale. À la fois pour décliner la charte nationale, définir justement le critère du local, des critères de durabilité supplémentaires s'ils le souhaitent, au sens où la marque impose que les produits locaux issus de circuits courts respectent la saisonnalité dans la zone de production, parce que pour nous, c'est vraiment, enfin même d'un point de vue scientifique, c'est vraiment une étape importante dans la transition vers des systèmes alimentaires plus durables que de respecter la saisonnalité. Donc pour nous, c'est le critère de base, mais les territoires peuvent ajouter, s'ils le souhaitent, des critères supplémentaires. Comme à Grabel, il y a eu justement l'interdiction des serres chauffées. Mais nous sommes aussi dans une région où c'est facile, hein, et c'est pour ça que enfin, imposer ce critère, il n'aurait pas forcément justement de sens où dans les zones du Nord, on peut imaginer des serres chauffées avec de l'énergie renouvelable. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dogmatique, mais plutôt pragmatique et vraiment... très adaptés au territoire. Donc ces trois collèges adaptent, définissent bien sûr leur zone du local et puis surtout sont collectivement vigilants à une bonne utilisation des étiquettes pour que la démarche reste crédible dans les territoires et à l'échelle nationale.
Et alors, concernant les étiquettes, comment ça fonctionne? Il y a des codes couleurs imposés par typologie de produit, ou là aussi, comme il y a une certaine souplesse d'utilisation, il y a des possibilités de création, comment ça fonctionne?
Alors, au départ, on était sur trois couleurs, donc vert, orange et violet. Alors, pas de rouge au sens où il n'y a pas de punition. Et la démarche a évolué parce que justement, au départ, en fait, on signalait en vert et orange les produits soit en locaux en vente directe pour le vert, des produits locaux en circuit court avec un intermédiaire ou deux pour les produits transformés, donc avec une étiquette orange. Et puis le violet, c'était le reste. Dans le violet, on retrouvait à la fois des produits en circuit court, mais qui venaient de plus loin, et puis de l'ananas qui a fait le tour du monde avec des conditions parfois de production discutables. Donc c'était embêtant, ce violet un peu fourre-tout. Donc il y a une première évolution déjà d'avoir trois couleurs positives entre vert, orange et violet, donc avec le vert qui reste sur la vente directe, et le orange permettant un circuit court de produits locaux, et le violet d'un circuit court, mais d'un produit moins local, mais dont on a besoin, parce que c'est important aussi de faire des échanges entre territoires, et on aime tous consommer des produits qui viennent d'un peu plus loin, mais avec cet intérêt de mettre en avant le circuit court, et donc un nombre d'intermédiaires limité, et forcément plus de valeur hein, à la fin pour le producteur, c'est essentiel. Et puis Rennes est arrivée, donc je laisserai Rennes présenter, mais donc Rennes a ajouté une autre couleur aussi parce que Le vert est un peu historiquement la couleur du bio. Donc, pour éviter ces confusions, voilà, la démarche est évolutive, elle progresse en fonction justement des retours et de l'utilisation des territoires. On reste sur une expérimentation à grande échelle, mais c'est ça qui fait vraiment aussi la richesse de cette démarche, c'est sa co-construction.
Mais quels sont les bénéfices aussi bien pour les vendeurs, donc commerçants, artisans, producteurs, que pour les consommateurs?
En effet, vous pointez un sujet clé au sens où cette démarche, elle a du sens que si elle est utile, en particulier pour les acteurs des systèmes alimentaires, hein, parce que c'est vrai que pour nous, la démarche ici locale, elle devait permettre déjà de rassurer les consommateurs, puisqu'à la base, c'était pour répondre à des questions que les consommateurs se posaient en disant finalement, ce produit, mais il vient d'où? Est-ce qu'on est vraiment en circuit court? Parce que voilà, c'est parce que ces marchés sont compliqués. Compliqué pour des gens qui s'y connaissent pas forcément. Et donc, là, les résultats ont été très positifs. Ça permet de rassurer les consommateurs, de fidéliser la clientèle qui voit que bah, l'information, surtout, elle tombe pas du haut, elle est vraiment gérée localement. Et si on a une question, on peut la poser au comité. Donc, rassurer, fidéliser, les impliquer aussi, les consommateurs, dans le comité. Et là, c'est aussi l'idée d'avoir un outil au service de ce qu'on appelle la démocratie alimentaire, donc la participation des citoyens aux décisions concernant leur système alimentaire et leur évolution, leur orientation. Et puis, ça permet aussi de faire évoluer leurs achats. Parce que finalement, en mettant en valeur les produits locaux issus de circuits courts, eh bien, ça attire. Voilà, on se pose des questions sur est-ce qu'on achète le reste? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de penser qu'il faut manger tous local en circuit court, pas du tout. Mais en tout cas, de pouvoir mieux le faire et quand on le fait, bah, de savoir qu'on le fait aussi, c'est important. Finalement, il y a des gens qui achetaient des produits locaux en circuit court sans penser que bah, c'est un produit de mon territoire et puis ça permet aux producteurs de mieux capter la valeur ajoutée du produit. Donc ça, au niveau des consommateurs, c'était très important, mais ça aussi, en fait, l'effet, il était très important au niveau des producteurs et des artisans, des commerçants. Pour les producteurs, ça a permis aussi ça les a encouragés à diversifier leur production pour avoir plus de produits à offrir en circuit court. Ça les a encouragés aussi à renforcer les relations avec les collègues pour avoir plus de produits avec un intermédiaire, donc dans la logique circuit court avec un intermédiaire. Et puis ça les a encouragés à respecter la saisonnalité. Donc on est vraiment sur un outil au service de la transition agricole, de la transition écologique, puisque quand on rajoute un certain nombre de critères et on voit que, y compris le comité, même s'il n'impose pas des pratiques environnementales très strictes, le producteur se sent aussi impliqué dans une démarche de transition et donc encouragé en ce sens, reconnu pour les efforts qu'il fait en ce sens. Et donc, on voit qu'on n'a pas besoin d'imposer beaucoup de critères de durabilité écologique pour que, quand même, la transition s'enclenche, de par le fait qu'on ait un comité à la fois bienveillant et accompagnateur. Ça, c'est vraiment important. Et puis, les impacts sur les commerçants, les artisans qui, pour rentrer dans la démarche, pour proposer des produits en orange ou en violet, ont relocalisé une partie de leur approvisionnement. Vraiment, travailler davantage avec les producteurs de leur territoire. Et puis des conséquences aussi, des impacts positifs sur la collectivité. La collectivité qui avait peut-être parfois oublié son marché en disant, mais finalement, le marché était délégué. Et puis, donc, une réappropriation aussi du marché en tant qu'outil de politique publique. Montrer aussi que la collectivité, eh bien, parfois, elle peut être engagée, on le reverra, dans des projets alimentaires territoriaux. Et ce n'est pas forcément facile d'impliquer les citoyens de manière très concrète. Et là, la collectivité, elle a un outil très concret pour impliquer les citoyens dans la co-gestion des systèmes alimentaires. Donc pour les collectivités aussi, c'était un résultat intéressant.
En préparant cette émission, j'ai lu aussi que visiblement le panier d'achat était quand même inférieur en termes de prix par rapport à la grande distribution ou à des primeurs. Alors, j'ai trouvé des chiffres variables allant de moins 3% à moins 20% en fonction des chiffres plus ou moins récents. Vous confirmez que finalement, c'est aussi accessible à des publics, on va dire, non bobos, pour reprendre le terme établi, c'est-à-dire des gens avec un certain pouvoir d'achat, et que c'est aussi accessible à des milieux plus populaires, parce que le marché, me semble-t-il, est aussi un lieu assez populaire.
Oui, dans les circuits courts, c'est certainement le lieu le plus mixte socialement, qui va brasser des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des gens éduqués et des gens qui le sont moins, et vraiment en respectant la diversité. Parce que le marché, vous pouvez y aller, mais il n'y a pas d'engagement nécessaire. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment sociologiquement, hein, c'est tout à fait confirmé que les marchés sont des lieux clés. Et donc, il n'y a pas de surcoût lié à ICC local. Et c'est vrai que, alors, c'est pas seulement lié à ICC local, hein, donc on fait des observations de prix, notamment avec l'UFC Que Choisir, qui a fait de manière indépendante, hein, des observations de prix sur les fruits et légumes en circuit court et en supermarché. Et ont montré, en effet, ont confirmé que les produits en circuit court n'étaient pas plus chers par rapport au supermarché et moins chers en bio. Et donc là, on voit 15%, en fait, hein, 15% de moins cher sur les produits en circuit court et en bio. Et en plus, eux ont fait cette comparaison vraiment massive, hein, avec beaucoup de points de vente qui ont été observés. Et en plus, eux, ils ont fait l'observation dans des magasins. Donc les magasins, où c'est quand même un petit peu plus cher qu'au marché. Bien sûr, faut comparer des choses comparables. C'est-à-dire qu'on va comparer une fraise à une fraise d'origine France. Là, en ce moment, c'est la pleine saison des fraises. Évidemment, la fraise espagnole est beaucoup moins chère, mais rappelons que le coût d'un produit alimentaire est surtout lié au coût du travail. Et en France, on a un SMIC plus élevé que dans les autres pays, enfin, que certains pays comme Espagne, que les pays de l'Est en particulier. Du coup, bah, forcément, un produit est plus cher à produire, ne serait-ce que par le coût du travail. Donc, il faut aussi savoir pourquoi on paie, en fait. Et on paie là, en effet, pour des revenus décents des travailleurs en agriculture.
Merci Yuna. Donc du coup, nous avons invité Pauline et Nathalie pour témoigner de comment elles ont déployé et mis en œuvre ICC local sur leur territoire. Nous avons souhaité inviter deux personnes justement pour montrer la souplesse d'utilisation, puisque vous avez déployé avec deux méthodologies pardon, sensiblement différentes et des contenus de chartes aussi légèrement différents pour répondre aux spécificités de vos territoires. On va commencer avec Pauline, si vous voulez bien. Donc, la ville de Lyon a commencé à réfléchir à cette démarche en 2022 sous l'impulsion des élus. Alors, avant d'évoquer cette initiative, justement, est-ce qu'on peut éclairer nos auditeurs sur la structuration de votre territoire, par exemple en termes de typologie de produits agricoles, et aussi hein, peut-être indiquer le nombre de marchés pour donner le contexte, et comme ça, on pourra comparer ensuite avec la ville de Rennes pour vraiment comprendre que le contexte va influencer comment vous avez travaillé. Avec cet outil, votre politique publique, je vous laisse la parole, Pauline.
Alors nous, déjà, la ville de Lyon, donc, par semaine, on organise plus de 130 marchés, donc 130 tenues hebdomadaires, ce qui représente un nombre important que l'on gère directement. La gestion des marchés n'est pas déléguée. En termes de paysage, donc nous, on est la ville de Lyon. On travaille quand même étroitement avec la métropole de Lyon qui porte le projet alimentaire territorial. Et en termes de production locale qu'on peut retrouver sur les marchés, il y a plus de, il me semble, 20% de producteurs inscrits sur les marchés de la ville de Lyon.
Vous avez annoncé un nombre de marchés assez éloquent. Comment vous y êtes pris pour lancer ICC local? Et comment vous avez associé les personnes au comité? Comment vous avez incité tous les acteurs à venir dans ce comité?
Alors nous, justement, comme vous le disiez, ce nombre de marchés est important. Donc pour se lancer dans la démarche ICC local, sur les conseils de Yuna, de l'INRAE, on a choisi d'expérimenter dans quelques premiers marchés pour pas se lancer dans tous ces marchés hebdomadaires. On a donc choisi 5 marchés de typologie et d'arrondissements différents pour voir comment la démarche était acceptée ou non par les commerçants, par les habitants. Et puis aussi juste voir nous comment notre méthode pouvait se déployer, est-ce qu'elle correspondait vraiment aux besoins de ce projet-là. Donc début 2023, on a sélectionné ces 5 premiers marchés, créé et constitué un comité expérimental et on a commencé à aller sur les marchés à la rencontre des commerçants, des habitants, pour leur parler déjà de ce projet. Certains en avaient entendu parler, d'autres non, mais aussi leur expliquer le fonctionnement de ce projet qui est finalement très collaboratif en les encourageant à rejoindre ce comité. Début 2023, on a organisé ce premier comité expérimental qui a choisi les critères des étiquettes applicables aux 5 marchés de la ville de Lyon. La démarche a plutôt bien fonctionné, elle a bien pris, ça nous a permis d'avoir un dialogue très intéressant avec les commerçants mais aussi les habitants sur leurs attentes et comment valoriser les marchés et les produits qui sont vendus sur les marchés alimentaires. Et on a décidé de déployer cette démarche donc, dans tous les marchés de la ville de Lyon fin 2023. Donc là, c'est encore en cours. Et on est en train de distribuer les étiquettes dans tous les marchés, ou en tout cas auprès de tous les commerçants volontaires pour y participer. En termes de mobilisation, voilà, les commerçants n'ont pas l'obligation de participer à ce projet-là. D'ailleurs, tous ne remplissent pas les critères, donc ça n'aurait pas forcément de sens. Mais donc sur la base du volontariat, on leur a proposé de rejoindre le comité et ou de récupérer leurs étiquettes. On a été aussi à la rencontre d'habitants, on a mobilisé les conseils de quartier aussi pour pouvoir avoir une représentativité intéressante dans notre comité. Et puis, on a fait appel aussi à des structures avec lesquelles on travaille sur ces sujets d'alimentation durable, mais aussi de valorisation dans les marchés, pour rejoindre un collège partenaire qui permet voilà, aussi de travailler avec la ville sur ce projet-là.
Alors, concernant le comité, la définition des circuits courts, dans votre cas, comment ont été définis les circuits courts? Quel est le zonage? Qu'est-ce que ça comporte et qu'est-ce que ça exclut?
Donc, nous, pour les différents critères, donc pour rappel, on a eu deux comités, donc des critères qui ont pu varier un tout petit peu, même si ça a été quand même très léger. Donc, le critère du local, nous, Ville de Lyon, on a proposé au comité différentes lectures du local qui pouvaient aussi permettre de débattre sur cette notion-là. Une définition plus kilométrique qui faisait écho aussi à certains projets qui étaient développés sur la ville ou juste à côté, mais aussi une lecture un peu plus administrative, en tout cas départementale du local, qui permettait déjà de n'exclure quasiment aucun producteur, mais aussi de pouvoir espérer aussi que cette démarche elle puisse être adoptée ailleurs avec une définition de local pour la ville de Lyon, voire son territoire métropolitain, qui ne varie pas trop et qui permette aux commerçants de disposer plus simplement de ces étiquettes. C'est cette définition qu'on a adoptée. En l'occurrence, le critère du local concerne le département du Rhône, ses départements limitrophes et le département de la Drôme et de l'Ardèche. Donc, département limitrophe du Rhône, il y en a quatre, en l'occurrence l'Ain, l'Isère, la Saône-et-Loire et la Loire. Pour nous, ça n'avait pas forcément de sens d'avoir un critère qui était trop restrictif, mais voilà, ce critère-là et ces départements permettaient d'inclure tous les producteurs, mais aussi d'avoir une diversité de produits intéressante. Pour les circuits courts, la première charte mentionnait explicitement deux intermédiaires pour les produits transformés et du coup un intermédiaire pour les produits bruts. Le comité qu'on a réuni fin 2023 a préféré laisser ce seul intermédiaire pour tous les produits, effectivement, en autorisant un intermédiaire, on va dire, comme le disait Yuna tout à l'heure, un abattoir ou un autre prestataire de service qui va participer à la vie du produit, mais qui ne va pas être considéré comme un intermédiaire à acheter et revendre. Ça permettait d'avoir une lecture plus claire pour les consommateurs, et nous, on est à la disposition des commerçants pour vérifier si leur mode d'achat, par exemple, ou de sélection des produits transformés rentre bien dans cette charte-là. Et ensuite, en termes de critères de durabilité, on n'a pas forcément voulu aller très très loin et rajouter beaucoup de critères sur un début de démarche, aussi pour nous laisser, nous, la capacité de l'expliquer correctement aux commerçants et de ne pas avoir justement trop de choses à intégrer pour participer à la démarche. On a donc évidemment conservé le critère de saisonnalité qui est finalement le socle, enfin, est une des bases de ces étiquettes. Par contre, contrairement au comité expérimental, on a spécifié, nous, que les produits non locaux, l'étiquette violette, n'aient pas pris l'avion pour être acheminés sur les marchés de Lyon.
Il y a vraiment une logique de bilan carbone réduit dans votre démarche telle que vous l'avez conçue. Alors, pour nos auditeurs qui se diraient « je suis dans une collectivité, pourquoi pas proposer ça à mes élus ?» Quels sont les points d'attention que vous souhaiteriez transmettre aux collègues qui seraient intéressés pour se lancer dans une démarche?
Alors du coup, nous, pour la ville de Lyon, et là, ce n'est pas forcément une alerte, mais effectivement un point d'attention ou quelque chose qui a été du coup très représentatif de notre démarche, c'est la nécessité de construire ou de continuer une très grande proximité avec les commerçants des marchés pour leur expliquer la démarche. Nous, la ville de Lyon, donc, on met à disposition les étiquettes aux commerçants volontaires. Donc, il n'y a pas de frein économique, on va dire, à l'achat d'un matériel spécifique. Mais en tout cas, on a remarqué, et ça a été l'enseignement principal de la phase expérimentale, que ça nécessitait d'aller voir les commerçants, d'aller leur en parler, de répéter aussi ce message, mais d'être vraiment là à disposition pour pouvoir les éclairer sur ces critères-là. Pour certains cas particuliers, parce qu'il y en aura forcément, de voir en fait comment, oui ou non, ils pouvaient s'inclure dans cette démarche-là. Comment on pouvait quand même contribuer à la valorisation de produits locaux. Donc ça, c'est pour nous un point d'attention qui semble important de spécifier. Ça a été aussi plus qu'un enseignement, mais aussi un point très positif de ce projet-là. On parle de valoriser les productions locales, les modes de production et d'approvisionnement, mais c'est aussi une manière de valoriser les marchés et d'être aussi au contact et à l'écoute des commerçants et de construire une relation qui permet aussi après d'imaginer d'autres projets sur par rapport auxquels ici c'est local pourra peut-être être un socle ou un point de repère, mais autour duquel on peut construire autre chose. Nous, sinon, en alerte, et c'était l'enseignement aussi de la phase d'expérimentation de notre projet, Ça a été aussi de dire qu'ici c'est local n'est pas qu'un dispositif pour les producteurs, mais aussi pour montrer les efforts qui sont faits par des revendeurs d'aller se fournir directement auprès de producteurs. C'est du coup un message qu'on a aussi adapté au fur et à mesure pour aller voir ces commerçants revendeurs et leur dire « Vous achetez auprès de producteurs directement, participez à cette démarche, ça montrera aux consommateurs cet effort que vous faites et ça permet de montrer aussi que vous travaillez avec des producteurs locaux et que finalement cet approvisionnement local, bah, vous y contribuez et vous y participez. » Et même encore maintenant, moi, je vois des commerçants, surtout sur là, c'est la saison estivale qui commence avec beaucoup de fruits, notamment des fruits rouges, de leur dire « Mais même si vous n'avez que quelques variétés achetées directement dans l'année, allez-y, participez et comme vos collègues producteurs, montrez que vous contribuez aussi à un modèle d'alimentation plus durable et que vous proposez ce type de produit. »
Une dernière question avant qu'on laisse Nathalie nous expliquer comment ça s'est passé sur Rennes et pour quelles raisons. Qui s'occupe du contrôle des étiquettes? Je peux être forain sur le marché, de vous dire oui, mes cerises viennent de la Drôme ou de l'Ardèche, je n'en sais rien, et qu'elles finalement elles viennent d'Espagne.
C'est une bonne question parce qu'on nous l'a beaucoup posée. C'était d'ailleurs l'une des premières questions qu'on a eues de la part de commerçants. Alors déjà, nous, pour le cadre aussi dans lequel s'inscrit la participation des commerçants à ICC Local, nous, avant de déployer cette démarche-là, on a inscrit dans le nouveau règlement général des marchés de la ville de Lyon un article spécifique à ce système d'étiquetage que mettrait en place la ville de Lyon. ICC Local n'est pas spécifiquement cité, mais par contre, il y a bien un article qui parle de cette démarche-là dans laquelle s'inscrivent les commerçants. Et donc, le non-respect des critères d'utilisation de ces étiquettes-là, mises à disposition par la ville de Lyon, expose le commerçant à des sanctions qui sont prévues dans le cadre du règlement général des marchés. Donc, ça reste effectivement déclaratif, mais le commerçant signe la charte d'utilisation qui spécifie justement ce cadre réglementaire de base à l'utilisation de ces étiquettes. Nous, ça permet effectivement d'avoir quand même un cadre dans lequel on parle de ce projet aux commerçants et qui permet quand même aussi de les engager à respecter ces critères-là.
Je vous remercie. Nathalie, donc l'expérience sur Rennes est un peu plus récente. Vous avez commencé en novembre 2023. Pouvez-vous expliquer, de la même façon que l'a fait Pauline, à nos auditeurs, quelles sont les spécificités de vos territoires qui ont après conduit à certaines décisions dans le déploiement de la charte?
Alors nous, sur la ville de Rennes, on est plus petit que la ville de Lyon en termes de marché. On a 16 marchés de plein vent qui se tiennent chaque semaine. Ils sont aussi gérés en régie par la ville, par donc un service des marchés qui les met en place chaque semaine. Et donc, au niveau des productions sur le territoire, on a la chance aussi d'être un territoire qui est très riche en production agricole, avec de la production maraîchère, de l'élevage, et également une spécificité liée au fait qu'on est en Bretagne et que donc on a beaucoup de produits de la mer. Et nous, notre choix d'expérimentation, ça a été aussi de se dire que on n'allait pas commencer sur tous les marchés, mais essayer de d'abord voir sur un marché si la démarche fonctionnait, prenait, comment elle était accueillie par les commerçants et par aussi les consommateurs. Et pour ça, donc, on a spécifiquement un très, très gros marché qui s'appelle le marché des Lys, qui est le deuxième plus gros marché alimentaire de France, avec près de 250 exposants. Et donc, on a choisi de commencer par ce marché-là pour tester la démarche, comme il présentait vraiment une grande diversité d'exposants et puis aussi un gros nombre d'exposants et du coup, une grosse fréquentation.
Comment vous y êtes prise avec la ville de Rennes pour mobiliser à la fois les consommateurs, les artisans, les producteurs, les maraîchers et les partenaires comme la Chambre d'agriculture?
À la ville de Rennes, dans le cadre du plan de relance, on avait eu de l'argent pour pouvoir mettre en place ce projet-là et donc faire appel à des prestataires pour nous accompagner sur la mise en œuvre. Et donc, on a été accompagnés par la FR Civam et par un cabinet de conseil agricole qui s'appelle Terralim, qui nous ont accompagnés sur le projet et qui ont commencé du coup par une première réunion donc partenariale où on a mobilisé tous les partenaires institutionnels plus du territoire et puis les représentants aussi des commerçants pour leur parler tout d'abord qu'il y allait avoir une expérimentation de ce projet sur le territoire de Rennes. Donc évidemment, ben, la Chambre d'agriculture, les syndicats des marchés, syndicats bio aussi, Chambre Agrobio 35 chez nous, également la collectivité Eau du Bassin Rennais qui est porteur d'une démarche Terre de Source qui allait être impliquée également sur ce système d'étiquetage. Et puis après, la métropole qui a aussi un gros projet autour de l'agriculture, enfin plein de partenaires. Donc première présentation et ensuite commencer à un peu les questionner s'ils seraient intéressés pour participer et les inviter dès cette première phase de démarchage
à venir participer au premier comité de suivi qui se tiendrait au mois de janvier-février. Pour ça, on a aussi été accompagnés, on a eu la chance d'être accompagnés par des étudiants du Master Air Pur qui, dans le cadre d'un projet d'études, ont pu venir avec nous sur le marché et faire cette enquête. Et donc, le fait qu'on ait ces étudiants qui nous aidaient sur le projet, ça nous a permis aussi de faire sur ces temps de passage sur les marchés des enquêtes auprès des consommateurs pour leur poser les mêmes questions sur les envies, les attentes, les craintes auprès du projet pour commencer.
Et comment a été accueillie la démarche quand vous êtes allé sur le terrain ?
Alors, les premiers échanges, on a eu déjà beaucoup de retours assez positifs et on a eu peu de retours, on va dire, vraiment purement négatifs. Il y avait quand même de la vraie curiosité de la part de la majorité des commerçants. Certains étaient intéressés en se disant « ça me concernera ». D'autres, dès le début, se sentaient moins concernés. Notamment, la plupart des retours, on va dire, non concernés qu'on a pu avoir, l'argument principal était « mes clients me connaissent déjà et je n'ai pas besoin de ces étiquettes ». C'était là le principal argument, mais néanmoins quand même un intérêt. Et puis aussi directement la question, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, du contrôle qui revenait de manière assez systématique et cette première, on va dire, crainte qui était là. Mais par contre, dans l'ensemble, vrai intérêt et pour certains même une vraie envie. Et ils estimaient ça comme un vrai besoin de pouvoir un peu clarifier certaines choses, notamment sur le côté information du consommateur où ils estimaient qu'il y avait des zones de flou qui existaient sur le marché. Et que cette démarche pourrait être très utile pour eux et pour les consommateurs parce qu'elle permettrait un peu de remettre de la clarté et puis peut-être de valoriser aussi ceux qui ont des démarches soit de vente directe, soit de circuit court et puis aussi les produits locaux.
Yuna, en introduction, a spécifié que vous aviez développé à la ville de Rennes une quatrième couleur d'étiquette contrairement à d'autres collectivités. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer du coup ce que revêt la notion de circuit court chez vous et quelle réflexion a été menée pour arriver à quatre jeux de couleurs d'étiquette et à quoi elles correspondent dans le cadre de la ville de Rennes ?
Sur la ville de Rennes, du coup, le choix de rajouter une quatrième étiquette a émané des deux premiers comités de suivi. On avait fait donc deux premiers comités de suivi qui étaient identiques, deux fois la même réunion pour pouvoir permettre aux gens de se positionner dès le démarrage s'ils avaient une impossibilité sur la première date. Et sur ces deux premières réunions, on a vraiment fait un brainstorming très ouvert où on questionnait vraiment tous les participants sur quels seraient pour vous vos critères de local, quels seraient vos critères de circuit court et est-ce que vous auriez envie de critères de durabilité. Et lors de ces échanges, les personnes présentes, il y a eu des débats assez vifs sur le choix des critères de durabilité qui était sur le territoire de Rennes un vrai sujet, puisque le fait d'aborder la notion de durabilité, pour certains, c'était forcément du bio qui devait être mis en avant. Et donc, en travaillant sur le sujet, le choix au départ, donc les premières propositions étaient peut-être de restreindre l'utilisation des étiquettes au bio. Et puis, en fait, les échanges entre tous les participants du comité ont fini par dire que ce n'était pas l'objet de l'étiquette que de restreindre à un label, mais que c'était bien d'informer le consommateur sur les démarches d'origine géographique du produit et puis aussi des modes de commercialisation et qu'elles venaient bien en complémentarité des labels de qualité qui, eux, pouvaient aussi informer sur les méthodes de production et donc de ne pas se restreindre au bio. Mais donc, comme il y avait vraiment un souhait quand même de pouvoir bien valoriser les produits bio, il y avait un souhait des membres du comité de mettre une exceptionnalité pour les produits bio et de leur garder leur code couleur un peu emblématique dans les esprits du vert et donc de pouvoir faire une étiquette qui serait spécifique pour les produits bio, locaux et en vente directe en spécifiant ce code couleur vert pour les produits. Et c'est également un souhait qui avait été très fermement indiqué par notre syndicat bio AgroBio 35 qui avait dit qu'ils étaient très favorables à la démarche mais que par contre pour eux, ils ne souhaitaient pas que l'étiquette verte puisse être utilisée pour des produits autres que des produits bio. Donc pour nous, et là le comité a été complètement d'accord avec cette idée de, effectivement, il peut y avoir confusion peut-être s'il y a des étiquettes vertes pour le consommateur. Et donc, chez nous, le choix qui a été fait, c'est de rajouter en fait une étiquette qui est bleue et qui est l'étiquette pour les ventes directes, producteurs locaux, mais qui ne seront pas bio et d'avoir la verte qui est spécifique pour le bio.
Merci Nathalie. Donc, vous avez spécifié que dans le zonage de vos circuits courts, comme vous êtes en milieu littoral, vous incluiez aussi certains produits de la mer. Donc, je vous laisserai nous en parler et j'en profite aussi. Pauline avait spécifié dans les singularités qu'il y avait l'interdiction du transport en avion. J'ai vu dans votre charte qu'il y avait comme spécificité le bien-être animal. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux points? Premier point, produits de la mer, et deux, cette spécificité du bien-être animal.
Alors sur les produits de la mer, donc comme je l'ai indiqué en introduction, on a la particularité d'être très proche de la mer et d'avoir du coup beaucoup de produits venant de la mer sur le marché d'Hélice notamment. Là-dessus, il y a eu un peu beaucoup de réflexions qui ont été menées par le comité parce qu'on a été face à un peu des difficultés sur la question des produits de la mer, notamment pour la définition du local, puisque si sur des productions agricoles, élevage, maraîchage, il y a un lien clair à la terre, donc on connaît la zone précise. Sur le produit de la mer, la pêche, c'est des zones de pêche, et donc c'était un peu plus flou pour nous. Et en tous les cas, le comité ne se sentait pas forcément à l'aise avec la définition du local. On a donc questionné l'Institut agro de Rennes sur ces questions-là, surtout qu'il y a un pôle halieutique qui est un peu spécialisé sur la question. On leur a posé la question pour qu'ils nous aident sur comment est-ce qu'on pourrait définir le local. Vu les délais qu'on souhaitait pour la mise en œuvre, on n'a pas réussi à aller au bout de cette démarche sur les produits poissons. Et donc le choix qui a été fait, c'est qu'au lancement, donc aujourd'hui, sur la phase d'expérimentation qu'on est en train de faire, les produits de la mer peuvent être étiquetés, mais seulement les produits conchylicoles, donc coquillages et crustacés qui sont pêchés sur les côtes ou élevés sur les côtes, et les algues qui peuvent être aussi ramassées. Donc en fait, tous les produits qui ont un lien vraiment terre. Et donc là, la définition locale qui a été choisie par le comité, c'est la région Bretagne. Pour les poissons, on est en attente. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'étiqueter les poissons. Et on souhaite travailler avec des groupes étudiants de l'Institut Agro pour pouvoir justement évoluer dans la démarche et bientôt l'ouvrir aux poissons.
Et donc, d'où vient cette envie d'inclure le bien-être animal et qu'est-ce que vous entendez dans la charte par bien-être animal?
Alors la question du bien-être animal, elle a été présente dès les premiers comités de suivi, mais le souhait de vraiment rajouter un critère spécifique émanait du dernier comité de suivi avant validation de la charte. Comme le comité s'était accordé sur le fait de ne pas être trop restrictif en termes de critères de durabilité, car ce n'était pas forcément le rôle des étiquettes, si ce n'est de respecter à minima la saisonnalité et d'interdire chez nous les cerfs chauffés aussi et les poules en cage. Mais il y avait quand même ce questionnement du comité de suivi sur nous. C'est important le bien-être animal et là-dessus, même si on ne va pas plus loin sur d'autres critères de durabilité, on aimerait qu'il y ait une spécificité là-dessus. C'est côté ville de Rennes où on a fait une proposition du coup pour pouvoir intégrer des critères de bien-être animal puisque à la ville, on travaille déjà avec une démarche qui s'appelle la démarche Ethica qui est portée par l'association Wellfarm pour nos marchés publics d'achat alimentaire. Et cette démarche, en fait, elle propose un cahier des charges à destination des agents des collectivités avec certains critères en faveur du mieux-être animal en élevage et du coup qui pouvaient potentiellement être appliqués à la charte ici, c'est local également. L'association étant d'accord pour qu'on utilise ce code critère pour l'expérimentation. Et donc, on s'est dit que pour le démarrage de l'expérimentation, on appliquait effectivement ce critère de mieux-être animal qui ne limite pas à certains labels, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obligation d'être en label rouge ou d'être en bio pour pouvoir avoir les étiquettes. Néanmoins, il faut pouvoir respecter les conditions minimum de mieux-être animal qui sont spécifiées du coup dans la charte.
Et Nathalie, quels sont plus précisément pour nos auditeurs ces critères pour le bien-être animal?
Il y en a plusieurs, mais principalement, l'un des critères est l'accès au plein air pour la majorité des espèces, donc toutes les espèces avicoles et les espèces ruminantes. Et un critère pour le porc qui peut être assez contraignant, c'est l'accès au plein air ou l'élevage sur litière en bâtiment semi-ouvert ou avec une courette.
Merci Nathalie. Au regard de ces critères, alors quel contrôle mettez-vous en œuvre sur la ville de Rennes et comment vous y prenez?
Alors nous, aujourd'hui, c'est une question qui s'est beaucoup posée. On est, je pense, encore en cours de réflexion sur les méthodologies exactes de mise en œuvre. Tous les cas, ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas la ville non plus qui porte les contrôles, c'est bien le comité de suivi qui peut être amené à passer sur le marché et à échanger avec les commerçants. On se base déjà dans un premier temps sur le fait que ce n'est pas une démarche chez nous non plus qui est obligatoire, c'est bien sur la base du volontariat et que donc la plupart des gens qui s'engagent dans la démarche ne s'y engagent pas dans une volonté de frauder dès le démarrage, mais qu'il y a bien une sorte de responsabilité collective à faire fonctionner la démarche et donc à ne pas y adhérer pour frauder. Néanmoins, l'idée que le comité de suivi puisse passer sur les étals, échanger avec les commerçants s'il y a des choses qui semblent un peu différentes entre ce qui avait été déclaré et ce qui est affiché, et qu'il puisse y avoir comme ça des échanges, et éventuellement, en cas de mésutilisation avérée au bout d'un premier appel, qu'il puisse y avoir un retrait de l'usage de la marque. Et on s'appuie aussi sur les contrôles aléatoires qui peuvent éventuellement être menés par l'INRAE, qui est détenteur de la marque.
Alors, une dernière question, Nathalie, pour vous. Quels conseils vous donneriez à des collègues dans d'autres collectivités qui souhaiteraient mettre en place cette démarche et cette marque?
Le conseil, je pense qu'il rejoindrait celui de Pauline. Pour moi, c'est une marque qui fonctionne avec un besoin de vrais liens avec les commerçants et les consommateurs. Vraiment pouvoir aller l'expliciter, être là, que les personnes soient bien identifiées dans la collectivité de qui peut répondre à leurs questions s'ils en ont sur la démarche. Et puis, à un côté, revenir aussi régulièrement, pouvoir être présent aussi assez régulièrement sur le marché. Donc, ça demande quand même vraiment du temps humain. Et puis aussi, bien animer le comité de suivi et avoir vraiment un gros noyau dur qui se crée et qui a envie de travailler ensemble et qui crée en fait un climat de bonne ambiance aussi sur le déploiement et qui facilite grandement la mise en œuvre après sur le marché et puis le côté suivi dans le temps. Et dernier élément, c'est la communication qui pour moi est aussi assez importante et notamment les enjeux. Donc nous, on est au démarrage, on a lancé ça que depuis novembre. Mais comment on fait perdurer aussi cette communication dans le temps? Donc à la fois sur la partie de lancement, comment on communique pour que les gens aient envie d'adhérer et puis pour que les consommateurs comprennent bien de quoi on parle, même si après, au fur et à mesure que les étiquettes arrivent, en fait, les commerçants deviennent ambassadeurs et donc il y a une démultiplication. Mais au démarrage, c'est quand même important qu'il y ait de la communication. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait vivre dans le temps la démarche avec un besoin peut-être de relayer la communication? Et donc le conseil pour les futurs collègues qui voudraient le mettre en place, c'est de penser ça aussi, d'avoir des méthodes de communication dans le temps.
Merci Pauline et merci Nathalie. Grâce à vous, on a vraiment vu qu'il y avait une souplesse et que cette marque s'adaptait vraiment au contexte. Vous pouviez vraiment la formaliser en fonction des commerçants et producteurs et maraîchers notamment. J'espère que cette émission participera à la valorisation de cette initiative et que vos témoignages donneront envie à des collègues en collectivité. Et je vous remercie toutes les trois du temps que vous avez bien voulu m'accorder pour cette émission et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, bonne journée.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.